up? Mm-hmm. Nigga. Yeah, it's me. Yeah. I'm back, baby. Cut that.
Ottoman couch, how handsome your furniture, lovely and now, but dressed for a funeral, begging you to sit far apart, you don't know what you want to do. Hang in the dark of some parliamentary hall.
Stay home alive, no TV, just thoughts and a heap of good weed. Same jeans, same old Converse, baked peas in the Wally, so works. I'm cool, some niggas mad at it. Look at it from the outside, fantastic. Can't keep the negative alive, baby, on my dick. If kid could he die, don't cry, hater. I forgive, go and get my album and get on my dick. Smiling and pleasant, the weed is the essence. But if I'm in the club, we could tear the shit up. I'm talking about shots, ridiculous amounts. I said you're gonna raise. Should we all about take another shot or your soft dream on campaign? I'm the mother loving boss. Hit it, suck my balls. Two time. I never say goodbye, cause I'm on mine. All my life, wanna do something major. Now, every little thing I do might make it in the paper. Cuddy found young nigga Cobra. Mad drunk in the street, no photo. Hate motherfuckers, don't know yo. I guess this was the life I chose. Wanna get up in my mind. Wanna know about me and Amanda Bynes. Wanna know really, really, really who I'm dating. Is she civilian or super duper famous? Is she African American, Caucasian or Asian? Or maybe Spanish. It don't matter, my nigga, I love them all as long as she don't need stupid amounts of makeup to make.
Vous l'entendez, cette petite voix intérieure qui vous répète inlassablement que l'heure du crime approche ?
Vous l'entendez ? Mais si, écoutez bien. Écoutez-vous. Vous êtes peut-être victime de troubles bipolaires, mais ce n'est assurément pas votre faute. Ils sont nombreux, ces auteurs de polar, à éveiller vos sens. Aujourd'hui encore, nous allons parler de certains d'entre eux, de ceux qui justement élèvent la voix pour mieux nous permettre d'élever la nôtre. En attendant, taisez-vous. Vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Et vos complices de toujours sont avec vous. Cette semaine, point de défection salutaire et excusable de dernière minute.
Hola.
Hola. Elle est de retour. Alléluia.
She's back.
Linda, que ta voix résonne parmi nous. Et accueillons Noel Owen Prayez qui va se joindre à notre cœur pour nous parler de Polarisez-vous, une manifestation tentaculaire à Brissac, Loire, Aubance. Bonsoir Noel Owen.
Bonsoir Julien.
Bonsoir. Mais chut, aujourd'hui vos complices se nomment donc Linda, Luc Toups et votre serviteur zélé Julien. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Bonsoir.
Saluez notre gentil invité.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à vous.
Et maintenant, c'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre, générique maestro.
Johanna Aiguader n'était pas croyant. Au contraire, quand les processions pascales des catholiques en robe de bure noire envahissaient la Rambla, il s'empressait de quitter la ville. Il possédait une collection de figurines sacrilèges représentant différents papes, ainsi que les rois mages à croupetons, occupés à satisfaire un besoin naturel. Pourtant, ces derniers jours, ce goût pour le blasphème ne l'avait pas empêché de tracer d'innombrables signes de croix sur sa poitrine, car, avec la tournure que prenaient les événements, s'il s'avérait finalement que Dieu existait, il avait intérêt à rester en bon terme avec lui.
Il y a 15 jours, nous regrettions la disparition de Mary Higgins Clark. La reine du suspense n'est plus, mais les hordes scandinaves et nordiques ont envahi le marché. Et parmi elles, le Danois Jussi Adler Olsen et sa série autour du département 5. On ne cesse de vanter le modèle danois. Vous écoutiez un extrait de l'adaptation en livre audio de son nouveau roman, Victime 2117. Alors, 2117, ça n'a aucun rapport, je tiens à le préciser, avec le nombre de morts en Chine du coronavirus. La victime 2117 dans le roman, c'est la 2117e morte en voulant traverser la Méditerranée. Alors, c'est un peu triste tout ça, mais bon. Alors, vous n'avez peut-être pas identifié le lecteur de ce roman inculte que vous êtes.
Complètement inculte.
Il s'agit de Julien Châtelet.
Toujours aussi inculte.
Toujours aussi. Julien Châtelet qui a incarné le rôle de l'inspecteur Portal dans...
Toujours aussi inculte.
Les cordiers jugés flics.
Oh bah.
Ouais, bah j'assume mon inculture.
Bandignard, vous ne méritiez pas Pierre Mondy. Je ne sais pas ce qui me retient de vous acheter l'intégrale de la série en DVD. Ces flics-là étaient plutôt sympathiques, on ne les imaginait pas encadrant une manifestation de gilets jaunes. Mais quittons les rives nordiques pour retrouver Linda et sa voix réjouissante. Alors Linda, quelles sont les nouvelles de ton front littéraire ?
Eh bien, figurez-vous que Julien, oui, ce Julien que vous entendez là, m'a mis dans les pattes un livre qui traite d'un mouvement de grève interprofessionnelle étonnamment long. Je soupçonne un fond d'arrière-pensée venant de Julien. Il ne sait même plus quel livre il m'a refilé. Les émeutiers de Philippe Huette.
Ah oui, ah, les ça émeutiers, revient. Ça se passe au Havre, tout
voilà,
ça, dans les années 20 ou 30.
22. Ouais, les gros industriels de la sidérurgie habitués aux gras profits liés aux commandes d'armement font grise mine. Hein, on sort de la Première Guerre mondiale. Non pas qu'ils risquent de mettre la clé sous la porte, hein, simplement les bénéfices sont de revenus à la normale. Où pourraient-ils bien raboter des charges ? Je vous le demande. Suspense insoutenable.
Les salaires ?
Ah, oh, bravo ! Les salaires ! Baisser les salaires des ouvriers ! Et c'est là tout l'admirable du choix de la sémantique. Quand des salaires ou des cotisations deviennent des charges, par exemple, d'un seul coup, c'est plus une richesse, c'est un poids. Et qu'est-ce qu'on fait d'un poids ? Eh ben, on l'allège. Bam ! Moins 10% sur les salaires des ouvriers. Ah, ça fait du bien. Et sauf que les ouvriers... Ben, ils se trouvaient déjà légers, alors ils se mettent en grève, et ça dure, et ils descendent dans la rue. Alors, on peut pas encore appeler ça des manifestations, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Enfin, le concept hein, n'existait pas. Faudra attendre qu'à 35, pour que le droit de manifester soit établi, enfin surtout son encadrement légal. Avant, c'est ben, au bon vouloir du maire, et là, le maire, ben, il est un peu flou. Alors, l'État finit par s'en mêler, il envoie l'armée, parce que, du populo rassemblé dans la rue, c'est de l'émeute garantie, hein. Bref, j'étais saisie par la haine du bourgeois envers le populaire, justement. Alors, ça m'avait déjà interpellée en lisant des bouquins sur la Commune de Paris, fin 19e. Un demi-siècle plus tard, c'est pareil. Finalement, c'est un truc qui paraît assez fiable dans le temps, ça.
On en parlera dans Polarisez-vous, mais Étienne Davodeau et Un homme est mort, 50 ans plus tard, c'est exactement la même chose.
Ah bah tu vois, c'est ça, hein, c'est fiable. Mais pourtant, j'ai toujours été assez, moi, réticente par rapport à cette conception de lutte des classes, genre marxisme de base, hein, tout ça. Mais là, j'ai été saisie. Et par exemple, il y en a des gros patrons industriels qui établissent des listes noires d'ouvriers syndiqués, grévistes, pour qu'ils ne trouvent plus d'emploi nulle part. Des coups de pression sur les petits patrons sous-traitants, les menaçant de couper les commandes, si soutiennent les ouvriers récalcitrants. Alors j'ai été saisie par l'archaïsme du système et par sa modernité en même temps. Saisie parce que l'écriture est, je dirais plus que classique, moi je dirais pudique. Elle laisse l'espace à l'émotion et à la réflexion aussi, oui. Forcément, toute ressemblance avec l'époque actuelle, etc. Quelques chiffres, 4 morts, 2500 blessés, dont 315 à la tête, 5 mains arrachées. Ah non, excusez-moi, là ça je suis en train de lire les chiffres actuels, là, dites donc. Je me suis trompée.
Je me disais bien, il n'y avait pas beaucoup de morts.
Ouais, non, mais en fait, il n'y en a que 4 aussi.
Il n'y en a que 4
Ouais. Alors, c'est par balle, coup de sabre, etc. Alors justement, je me disais, les techniques, elles, par contre, ont évolué. Hein, on a de la modernité maintenant. Parce que, par exemple, préférez-vous mourir, réponse A, d'un coup de sabre derrière la nuque, ou réponse B, d'une rupture de larynx due à un plaquage ventral ?
C'est plus romanesque, le coup de sabre. Enfin, je pense que je peux...
C'est moins moderne. Enfin, j'ai pas prévu de petit C, vous m'excuserez. Bon, je vais revenir au livre. Donc, il nous parle aussi du cheminement intellectuel d'un journaliste au cœur des événements, tourmenté moralement par les collusions de son milieu avec les politiques et les puissants, avec un grand P. À voir d'ailleurs à ce propos, si vous pouvez, voulez, etc. Les nouveaux chiens de garde. C'est un documentaire de Yannick Kergoat et Gilles Balbastre. C'est visible sur Vimeo, si vous voulez, sur le net. Bon, alors vous l'aurez deviné, c'est pas une lecture rigolote. Mais pour autant, très agréable. Du coup, bah, si c'est pas très rigolo, alors je vous parle peut-être pas de la femme désespérée qui se défenestre parce qu'elle supporte plus d'avoir dû placer ses enfants faute de pouvoir les nourrir.
T'exagères pas, non. Non, mais moi aussi, je veux bien.
Non, c'est pas rigolo. Puis en plus, c'est culpabilisant. Alors, je préfère terminer sur une petite blague.
Vas-y.
Alors, elle n'est pas de moi, hein, c'est de Blanquer. Alors, sachant que seuls 0,1% des profs sont mécontents, ça fait combien sur toute la France? Alors, faut peut-être savoir combien il y a de profs sur toute la France.
Ah ouais, c'est ça.
Ouais, il y a 900 000 profs en France.
Bah, ça fait 900.
Ça fait 900 profs. Eh, seulement 900 profs mécontents sur toute la France. Eh, elle est pas belle la vie quand même.
Ouais. Eh, tu sais quoi? Il a fait une suite à ce roman.
Qui ça, Blanquer?
Philippe Huette. Mais un peu plus tard, il avance dans le
comment
dans
ça
le
s'appelle?
Là, tu me poses une colle, comme ça.
Je sais pas, on va chercher, puis on le dira après.
Philippe Huette, on lui demandera.
Voilà, puis on vous donnera la réponse.
Eh bien, merci Linda pour cette chronique enjouée avec cette
fraîche,
femme défenestrée,
fraîche,
tout ça.
Fraîche, oui. Légère.
Légère.
Ouais, j'aime ça.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM, c'est Calibre 58. Et nous allons maintenant embarquer pour un monde un peu plus léger, peut-être plus musical. Alors Toups, comment ça jazz?
Eh bien ça jazz, ça tape. Ça tape aujourd'hui. Alors pour aborder, la dernière fois, pour aborder le profil atypique de la baronne Panonica de Königswarter, on a parlé dernièrement des légendes du jazz, donc Charlie Parker, Chet Baker, Dizzy Gillespie, etc. À aucun moment on a eu de pensée pour un batteur. Et pourtant, si je vous dis Art Blakey, Jazz Messengers, Buddy Rich, Elvin Jones, Billy Cobham, Vinnie Colaiuta, Dennis Chambers, Manu Katché, Bernard Lubat, André Carelli, Steve Gadd, Christian Vander, Tony Williams, Mike Roach, Jack DeJohnett, Stevie Wonder, Phil Collins. Et je m'aperçois que je pourrais faire une chronique juste en citant des noms de batteurs. Et ces noms-là font un peu plus que vous dire un petit quelque chose, n'est-ce pas?
Oui.
Eh oui. Et rares sont les batteurs de légende qui sont connus du grand public. Rares sont ceux qui sont leaders de groupe. Car le batteur est essentiellement ce qu'on appelle en français un accompagnateur. Et en anglais, dans un terme sans équivoque, un sideman. On est souvent surpris qu'un batteur... Ben oui, ben vous avez qu'à vous mettre à l'anglais, hein, si vous n'avez pas compris.
Un homme
mais
de côté.
Quelle ouverture d'esprit, cher ami.
Franchement.
Moi, je suis pas batteur, je suis battant, donc tu vas pas me faire ce coup-là tout le temps.
Non, mais c'est pas pour vous que je disais ça.
Ah, c'est d'accord, c'était pour Nolwenn.
Au-delà du poste.
Ça s'appelle un accueil.
C'est ça. C'est un accueil de batteur. Hein.
Alors, question. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui traîne toujours avec des musiciens?
Un poivreau.
Un batteur. Comment est-ce qu'on appelle un batteur qui vient de rompre avec sa petite amie?
Un battu.
Un SDF. Quelle différence y a-t-il entre un solo de batterie et un éternuement?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. On le sent arriver, mais il n'y a rien à faire pour l'empêcher. Bon, on est souvent surpris qu'un batteur puisse être également un compositeur. Je tiens donc à rappeler ici solennellement les trois éléments fondamentaux pour qu'on puisse parler de musique selon le pianiste légendaire Bill Evans, qui était un génie de la mélodie avec une conception de l'harmonie exceptionnellement rare et qui disait ceci: il faut trois choses pour faire de la musique. Le rythme. Donc je me permets de le rappeler encore une fois, quand la question du rythme cesse d'être un problème, alors on peut apprendre n'importe quel instrument et on va faire de la musique. Voilà, je voulais vous parler d'un batteur qui en 83 a relevé le défi du remplacement de la section rythmique du groupe Weather Report après le départ de Peter Erskine et Jaco Pastorius. Oui, une autre fois on parlera de Weather Report et de Peter Erskine et Jaco Pastorius, on va faire comme si vous saviez qui c'était. Alors son nom, Omar Hakim.
Hakim.
Oui, bah, alors quelqu'un va me dire Hakim. C'est pas celui qui enregistre la batterie de Let's Dance de David Bowie la même année ?
Si.
Hakim ! C'est pas celui qui enregistre la batterie de Money for Nothing de Dire Straits ?
Si.
Hakim !
Ça, je connais.
C'est pas celui qui enregistre la batterie de tout l'album, du premier album solo de Sting, comment ça s'appelait, le Dream of a Blue Turtle ?
Si.
Mais Hakim, c'est pas celui qui, à l'âge de 10 ans, jouait dans le groupe de son père, Hassan Hakim, le tromboniste, passé par les orchestres de Duke Ellington et de Count Basie, qui était ami de John Coltrane, ce qui permet à son fils de rencontrer, de côtoyer des batteurs de légende comme Elvin Jones en fait. Et Herb Blakey.
Oui, c'est ça, ce n'est qu'un fils d'eux.
Ce n'est qu'un fils d'eux, mais attendez. Là, on parle d'un sérieux client, crédité sur plus d'une centaine d'albums. Et pour ses débuts dans Weather Report, légendaire groupe de jazz fusion, co-dirigé par le saxophoniste Wayne Shorter et le claviériste Joseph Winnell, des échappés de chez Miles Davis, qui réussit à placer une de ses propres compositions. Ça, c'est un tour de force, parce que pour arriver à placer une composition auprès de ses grands maîtres, il fallait y aller. Le morceau commence... Le morceau s'appelle Molasses Run, qu'on va écouter dans quelques instants. Le morceau commence par une introduction de batterie qui nous permet de découvrir une rythmique peu ordinaire, qui demande un petit temps d'adaptation et qui influencera d'ailleurs beaucoup de batteurs. Omar Hakim nous offre un morceau structuré de bout en bout par le rythme. Soit une structure en A et B, précisément A'B'B'B'. Et encore A à la conclusion. Il y joue la guitare, utilise sa voix comme instrument d'accompagnateur alors qu'il fait exposer le thème du A par la basse électrique et le thème du B par la guitare. Les solos suivent fidèlement la structure métrique et harmonique du thème, ici et là, avec des points de repère qui sont autant de points de rendez-vous réguliers. Un dernier mot sur les cymbales, parce qu'on me demande toujours c'est quoi les cymbales. Alors t'as les deux cymbales fermées qui s'appellent la Charleston, qui servent à guider le tempo. La crash, c'est pour taper. À chaque fois, tu entends bam, c'est sur une cymbale, c'est une cymbale crash. Et puis la ride, c'est pour conduire. La ride, c'est quand tu entends la petite cymbale qui fait ding 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 ding, qui entre parenthèses se dit en français le shabada 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 shabada. Voilà. On va écouter Molasses Run, titre qui, à cause de ce jeu de mots de potache avec le Rhum de mélasse, nous laisse un parfum de sobriété morose dans ce studio de Radio G 101.5. Et je vais continuer à commenter la structure du morceau en direct.
Malheureusement,
écoute cette rythmique, essaye de me dire si tu comprends quelque chose. Arrive le thème à la basse. Et les voix qui accompagnent. Et c'est le batteur qui joue la guitare et qui chante. Tu te rends compte ? Le batteur. Thème du B à la guitare.
On va pas l'entendre jusqu'au bout parce que nous sommes déjà bien en retard.
Oui, non, on va pas écouter le morceau en entier.
Mais peut-être qu'on va
là
demander...
on est sur l'exposition du thème, donc on ne parle même pas de couper sur l'exposition du thème.
Oui, chef. Elle annonce l'arrivée de Burt Reynolds dans un film des années 80. Tu vois pas Burt Reynolds, tu sais ? Une espèce de Tom Selleck avant l'heure avec des moustaches.
Oui. Oui, Julien.
sur le saxophone. Si on est vraiment en retard, on peut commencer à...
Je vais un peu parler sur cette musique pour faire la transition, car nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est Polarisez-vous du 4 mars au 4 avril dans la commune de Brissac, Loire-Aubance. Nolwenn, Polarisez-vous, quelle drôle d'idée.
Ça semblait une évidence.
C'est-à-dire, voilà. Pourquoi une évidence?
Une commune nouvelle qui voulait réunir tous ses habitants autour d'une thématique facile à aborder et qui pouvait s'approcher sous différents angles. Donc, polar, le film, le livre, le dessin. Voilà, on pensait pouvoir vraiment toucher tout le monde.
Ah, c'est... pris la main dans le Brissac, quoi, en fait.
Exactement.
Oh, Julien, c'est incontournable. Tu l'as bossé avant ou pas?
Je l'ai bossé avant. Brissac, Loire-Aubance, une commune nouvelle. Elle a combien d'habitants et c'est combien de petites communes, du coup?
Alors, on appelle ça des villages. Désormais, c'est 10 villages, hein, voilà, qui se sont réunis autour de Brissac, Loire-Aubance, et c'est à peu près 11 000 habitants. Voilà. Proche d'Angers, évidemment, au sud.
Donc j'imagine que c'est très éclaté au niveau de la superficie.
Alors c'est une commune qui est relativement grande et c'était aussi tout là le challenge, c'était d'avoir vraiment des animations et des rencontres avec des projets différents, des publics différents dans chacun des 10 villages pour qu'on soit au plus près du public avec des propositions extrêmement différentes.
Voilà. Donc là ouais, vous arrivez à avoir des manifestations dans chaque village.
Dans chaque village, oh, ouais, exactement. Même les plus petits qui sont à 200 et quelques habitants.
D'accord, ah, super.
C'est quoi, sur un mois, c'est 30 manifestations différentes?
Un peu plus, on est presque sur 50 temps forts. D'accord. Voilà, avec des off dont tu fais partie.
Ouais, moi j'aime bien faire partie des off.
C'est quoi plus particulièrement les off? C'est en dehors du fait que c'est pas dans le festival, donc c'est du off, mais c'est quoi les off?
Alors les off, c'est tout ce qui a été fait au préalable avec les écoles, les collèges, le périscolaire du territoire, avec des habitants, avec des associations, en sachant que tous les off seront valorisés à un moment donné, soit l'inauguration, soit en clôture, soit sur d'autres temps forts. Mais le off dont je parlais avec Julien,
oui,
c'est...
Parle-nous du off.
Alors le off avec Julien, c'est un temps de formation qui va être proposé aux bibliothèques de la communauté de communes sur justement, qu'est-ce que le polar, avec donc différentes entrées là aussi, puisque l'idée c'est de travailler avec tous les acteurs du territoire, dont les bibliothèques, puisque nous avons 3 bibliothèques sur Brissac-Loire-Aubance.
Oui, parce qu'on n'en a pas non plus parlé, mais il y a une thématique, et la thématique c'est la voix VOX.
Tout à fait.
Et cette thématique-là, elle ouvre plein de perspectives. Qu'est-ce qu'elle ouvre comme perspective?
Bah, disons que c'est notre thématique de l'année, donc ça nous a permis de rencontrer plein d'acteurs différents, dont Angers Note Opéra il y a très peu de temps, voilà. Et là, pour le coup, ça nous permet de travailler sur le cinéma, ça nous permet de travailler sur les ateliers d'écriture qui vont être mis en voie, soit par les enfants, soit par les adultes, et donc d'avoir des animations avec des professionnels et des amateurs pendant 5 semaines.
Et les élus, comment ils prennent ça? Ils suivent les yeux fermés, les oreilles ouvertes ou...
Alors, l'année dernière, c'était une découverte. Voilà, c'était une première édition. On ne savait pas trop si on allait repartir ou pas. Et il se trouve que les partenaires qui nous ont accompagnés nous ont fortement encouragés à reconduire le projet. Donc, les élus sont plutôt très à l'écoute, positifs et sont toujours très, très enthousiastes à l'idée d'avoir des nouveaux partenaires, des nouvelles entrées sur ce mois, puisque là, ça va être 5 semaines avec vraiment beaucoup, beaucoup d'animations partout. Et comme je disais, tout public.
D'accord. Et donc, il y a des auteurs d'invités, j'imagine?
Nous avons des auteurs. Nous allons avoir des auteurs qui sont de renommée nationale et des auteurs qui sont aussi de renommée régionale. Donc, plusieurs niveaux, plusieurs types de rencontres. Je te laisserai peut-être parler un peu plus des auteurs de renommée nationale, puisque c'est voilà, aussi sur des échanges qu'on a pu avoir qu'ils vont venir. Et puis, surtout, ce qui me semblait super intéressant, c'est que ces auteurs, ils viennent dans un contexte très particulier, puisque, par exemple, on a un de nos partenaires, la MFR, qui est un organisme... maison familiale rurale, organisme de formation qui va faire travailler ses élèves sur la préparation de cocktails dînatoires pour pouvoir accueillir et nos publics et nos auteurs sur des petits temps festifs et sympathiques et donc valoriser ce que chacun sait faire et comme il sait le faire. Voilà.
Je sens qu'il va y avoir du monde.
C'est possible, on espère.
On espère, c'est le but de toute manifestation. Donc j'imagine que le but là, c'est à la fois que le public soit là et qu'on parle de cette commune nouvelle, qui n'est plus si nouvelle du coup, puisqu'elle a plus d'un an d'existence. Elle a été créée en quelle année ?
Fin 2016.
Donc c'est une ancienne commune nouvelle.
Oui, on peut dire ça, mais l'arrivée des élections va confirmer voilà, cette commune nouvelle avec des nouveaux élus, vraiment élus par la commune nouvelle.
Oui, ce sera la première fois.
Ça sera la première fois.
D'accord. Oui, alors parmi les auteurs invités, on a la présence de Dominique Delahaye, qui est un auteur à la fois... qui est un auteur un peu rock, qui est un peu atypique parce qu'il a longtemps vécu sur une péniche sur les rivières de France. Il s'est plaint récemment justement que les barrages étaient les écluses, il n'y avait plus d'éclusiers, donc maintenant on ne peut plus trop traverser la France en péniche. Je dis rock parce qu'il a appartenu, il se trouve qu'il a appartenu à un groupe de rock avec mon oncle il y a très longtemps.
Ah, histoire de famille. Histoire de famille, Julien.
Et il se trouve en plus que Dominique Delahaye est arrivé par un autre biais à Brissac que moi.
Par la tête en noir.
Voilà, mais c'était totalement indépendant de ma volonté.
Mais je crois qu'il sera dans la prochaine émission radio.
Oui, il sera dans la prochaine émission radio quand même, parce que bon, quand on s'est dit, ah tiens, il y a Dominique Delahaye. La famille, c'est sacré.
On n'est pas en Sicile, mais non, c'est pas loin.
Non, mais tu as la grande famille du polar, et on s'en rendra compte notamment lors d'une rencontre qui sera mémorable, parce que ce sera la première du genre en France. Entre Frédéric Pollin et Romain Slocombe.
Le 2 avril.
MFR. Romain Slocombe, c'est un auteur qui est fasciné par tout ce qui a trait à la rumeur, tout ce qui a trait à la dénonciation. Il a beaucoup écrit sur la Seconde Guerre mondiale, notamment un roman qui a eu un petit succès qui s'appelait Monsieur le Commandant, qui est un roman épistolaire, une lettre à la commandanture. Voilà, il se trouve que la poste n'a jamais aussi bien fonctionné que pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des millions de lettres. Et Frédéric Pollin, lui, a écrit une trilogie. Là, le dernier sort là, en avril. D'ailleurs, il doit sortir pile au moment où il arrive.
Donne-nous le nom.
Sur la guerre d'Algérie. Ah non, mais on n'a pas le droit de me poser des colles comme ça.
D'accord, parce que si ça se trouve, on l'a déjà.
Ah bah moi, je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais oui, ça se trouve, vous l'avez déjà. C'est chez Agoulot et c'est vraiment très très bien. Et il se trouve que nous, ça nous intéresse ici parce que la guerre d'Algérie, c'est une guerre qui a été non dite et non écrite. Et il fait partie de cette génération qui arrive après ceux qui ont fait la guerre et qui commencent à en parler. Donc voilà, on sera très content d'avoir cette confrontation entre deux bons écrivains pour parler d'un genre du roman policier qui est le roman de guerre, qui en fait partie. Et nous avons aussi une demande d'une bibliothèque, je crois, de Brissac-Lorban, ce qui était Benoît Philippon.
Oui, ils avaient lu Benoît Philippon il y a l'année dernière. Les critiques avaient été unanimes. Tous les membres de l'association, tous les bénévoles de l'association étaient enthousiastes. C'était Mamie Leger, c'est
Mamie
ça ?
Leger, ouais.
Et donc, quand je leur ai demandé, est-ce que vous auriez un auteur vraiment qui vous plairait à rencontrer ? Voilà, on dit, ah, si c'est possible, on serait vraiment, vraiment ravis. Donc voilà, on est parti sur cette rencontre avec aussi Ingrid Astier. Donc ça sera une double rencontre le 17 mars également à la MFR.
Equinox, Les Arènes.
Plutôt humour noir.
Voilà, plutôt humour noir. Alors, il faut bien dire que Benoît Philippon, c'est drôle, c'est caustique, c'est mordant. Mamie Luger, c'est une petite mamie qui tire depuis sa fenêtre hein, quand elle pense qu'on veut voler sa voiture et qui finit par la donner parce qu'on en a besoin. Donc déjà, rien que ça... voilà.
Ça la rend aimable.
Ça la rend aimable. Au début, tu penses que c'est une Carmen crue et puis finalement, non, qui l'eut cru.
Et puis, c'est peut-être une Carmine cuite, oui.
C'est ça. Et Ingrid Acier, elle est connue à la série Noir pour écrire une série autour de la brigade fluviale sur la Seine. Et comme elle aime bien l'eau, elle a écrit La Vague chez Equinox, qui est donc un grand tsunami qui débarque sur une côte asiatique. Voilà, ça va être réjouissant aussi comme rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres points forts dans cette... parmi les 50, celui qui te tient le plus à cœur peut-être ?
Alors, ils me tiennent tous à cœur puisque c'est valoriser un type de partenariat et un public, donc voilà.
Mais sans être politique.
On a les courts-métrages SNCF qui peuvent être vraiment très intéressants puisqu'on a la SNCF en partenaire sur cette année. Pour avoir vu les différents courts-métrages, je pense que ça vaut vraiment le coup de se déplacer. Voilà, avec le vote.
Ouais, nous, à Ingrand, sur le Fresne-sur-Loire, on a eu la chance de les voir. Voilà. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup, beaucoup de manifestations et que ça va être très réjouissant. Nous, on va vous accompagner sur deux émissions et puis on va quand même continuer à faire la pub un peu tout le temps ici, avec aussi nos amis de l'imaginaire qui seront aussi présents pour une journée jeu de rôle. Un samedi.
Samedi, que je regarde parce que je sais plus.
Tu connais pas les 50 dates par cœur ?
Non. Je sais que c'est à Solgé l'hôpital. Le 28 mars.
Oui, je viens de le voir.
À 14h, à partir de 14h.
Le 28 mars, donc, évidemment.
Sur inscription.
Et. Ça, c'est des trucs d'élite.
Et on leur fait pas à Polarisez-vous, ils savent organiser.
L'année dernière, on a été obligé de refuser du monde, donc cette année, vraiment, sur réservation, pour être sûr de privilégier ceux qui auront anticipé.
Et l'année prochaine, ils payent. Eh bien, écoute, Nolwenn, ça m'a l'air fort sympathique, tout ça, on a hâte, on a d'y être. J'imagine que tu es dans le grand stress et dans la grande fatigue, d'ailleurs, il se
murmure. Mais tout le monde n'est pas comme toi, Julien.
Non, Nolwenn n'est ni stressée, là, ni fatiguée.
Non,
pas du tout, et elle va nous quitter, d'ailleurs, juste après, là, pour aller se coucher.
Exactement, je te remercie.
Eh bien,
c'est ça, les brancardiers qui sont dans le couloir.
Ils m'attendent, ils savent que je vais m'écrouler. C'est exactement ça.
Les hommes en blouse blanche avec des grosses seringues.
Tout va bien se passer. L'année prochaine, ce sera une autre thématique. Ça sera bienvenue chez les fous. On réfléchira à ça.
Eh bien, Polarisez-vous, c'est à Brissac-Loire-Aubance pendant un mois, du 4 mars au 4 avril. On a hâte d'y être. On te dit à bientôt.
Merci, à bientôt. Merci de votre accueil.
Avec plaisir.
Et puis, bon début.
On espère. À très bientôt pour l'inauguration, donc le 4 mars.
À bientôt.
Merci.
Au revoir. Eh bien, c'était Nolwenn Proyez pour parler de cette grande manifestation à Brissac-Loire-Aubance. On la remercie, on la laisse ranger ses petites affaires, se lever sans faire de bruit. Et nous, on va continuer. Vous êtes bien sur Radio G et on va écouter un petit morceau musical de Minnie Riperton, Inside My Love, de l'album Adventure in Paradise, sorti en 1975. Yeah.
Barely touching each other. Two spirits.
strangers, not strangers, only lacking the knowing. So willing, feeling infinite growing. While we're here, the whole world is turning. We should be
écoutiez Minnie Riperton, Inside My Love. J'avais dit que c'était de l'album Adventure in Paradise, sorti en 75. Cette chanson a été remise à l'honneur en 99 par Quentin Tarantino dans Jackie Brown, d'après le roman truculent d'Elmore Leonard, un film noir hommage à la Black Exploitation avec Pam Grier. Voilà. Mais c'est l'heure de notre petit débat DVD. Nous avons choisi deux films sortis là très récemment chez Rimini qui sont, vous allez le constater, diamétralement opposés. Carrefour de la ville de Ruben Mamoulian, une histoire d'amour dans une ville interlope, un couple glamour, Gary Cooper et Sylvia Sidney, et un regard sur la condition féminine dans le monde de la pègre. Et un Cap et Poignard de Fritz Lang, une histoire d'amour dans un pays en guerre, un couple glamour, Cary Grant et Lily Palmer, et un regard sur la condition féminine dans le monde de la résistance. Voilà, donc... que peut-on dire de Carrefour de la ville si ce n'est que c'est la seule contribution originale de Dashiell Hammett au film noir, puisque le reste, ça a été que des adaptations. Luc, qu'est-ce que tu aurais à suggérer ?
Écoute, moi j'ai été diablement surpris parce que c'est un film de 1931, donc c'est un film du début du parlant. C'est vraiment très important de le présenter sous cet angle-là. C'est un film de 31, c'est un polar, ça décrit le monde des bootleggers et pendant la prohibition. Et on a donc des deux personnages qui vont tomber amoureux et ça va être deux destins croisés. Puisque le kid qui va refuser de tomber dans la pègre va y aller, et sa femme, son amoureuse aller en prison et il va la libérer d'une manière un peu à l'américaine. Moi j'ai trouvé le film extrêmement moderne, très moderne, avec des séquences, des prises de vue. Par exemple, la prise de vue de l'ouverture, la file de camions des bootleggers qui s'en va au loin dans la nuit, je trouve qu'elle est brillante. Des poursuites en voiture en 1931, moi je trouve ça étonnant. Et puis la scène finale, la course dans la montagne pour effrayer les gangsters. Et bon, certes, elle est filmée en accéléré, mais c'est pas très grave. Je pense que dedans, on a deux grands comédiens, Gary Cooper d'un côté qui est brillant, encore qu'au début du film, il a encore tous les tics du comédien du muet, c'est-à-dire que toutes les mimiques sont exagérées, etc. Ça disparaît dans le film. Et puis, la comédienne Sylvia Sidney qui est, moi je trouve, éblouissante, pas torride, ce n'est pas une comédienne torride, éblouissante, très, très fragile, de par son physique déjà, mais aussi très déterminé. C'est pour moi une excellente surprise.
Et Sylvia Sidney, vous l'avez peut-être vue il n'y a pas longtemps, elle jouait une grand-mère dans Mars Attacks. Voilà, donc c'était un petit hommage que le réalisateur lui avait fait. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est une brune très troublante et très fragile. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la place. Ce que je disais, moi, la place de la condition féminine dans le monde de la pègre. C'est-à-dire que au début du film, en fait, c'est une nettoyeuse. Quand quelqu'un va commettre un meurtre, c'est elle qui récupère l'arme et qui va s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'on la voit à un moment, elle a un bras dans un plâtre et elle cache en fait dans son plâtre, enfin pas dans son plâtre, mais dans le foulard, elle va cacher l'arme qu'elle va jeter. Et elle, son truc, elle fait que ça. Et à partir du moment où elle se fait alpaguer, les autres, ils ont tous peur d'une chose, c'est qu'elle cause, donc ils lui disent non, non, mais cause pas, on va te faire sortir de prison. Et en fait, au final, elle sort pas de prison. Voilà. Et elle se retrouve en prison avec d'autres femmes à qui on a fait exactement le même coup. Il y a une espèce de déterminisme là-dedans qui est comme ça. Et un truc qui est très, très troublant, et tu l'as pas dit, mais tu as sûrement fortement pensé, c'est la première qui sort de prison pour retrouver son homme,
oui,
et qui va le retrouver mort dans une voiture.
Oui,
et
oui.
Elle passe de la joie à la peine, oui, au cri en une fraction de seconde. Oui. Et là, tu as tout ce qui s'abat sur l'autre héroïne. Mm-hmm. Voilà, donc c'est moi, c'est un film que je recommande chaudement, parce que il a rarement été mis en DVD, on le voit rarement. Et puis surtout, il y a ce scénario qui est très siménonien, oui, parce que Dashiell Hammett, il connaît un peu le métier, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Moi, je pense que, et puis peut-être dernier point, c'est la modernité. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de modernité. Par exemple, les plans qui sont tournés, le couple est sur la plage au début du film, il se promène sur la plage, il y a des plans qui sont extraordinaires. Enfin, il y a même une course sur la plage de ce couple-là, que moi, je trouve, on retrouve facilement dans les films de la Nouvelle Vague, par exemple, des années 60. Vraiment, pour moi, c'est une belle surprise.
Eh bien, on espère que vous aurez envie de découvrir ce film, chers amis.
Les carrefours de la ville.
Les carrefours de la vie, du réalisateur Ruben Mamoulian, d'après un scénario de Dashiell Hammett. Et maintenant, passons à Cap et Poignard de Fritz Lang. Alors, on a un peu, parce que nous, on était enthousiastes vis-à-vis de ce film, on a un peu monopolisé la parole. On va laisser un peu plus la parole à nos compères, Linda et Toops, sur ce Cap et Poignard de Fritz Lang, en disant d'abord que Cap et Poignard, c'est le surnom donné à l'OSS.
Ah oui, c'est ça, parce que... Merci.
De rien.
Donc
de
tu
rien.
Viens de comprendre le film.
Oui.
Tu viens de comprendre. Pourtant, c'est dit dès les premières minutes du film. Alors, tu devais être aux toilettes, peut-être, pendant
Mais
le générique.
Mais non, je t'assure. Alors, par contre, on n'a pas réussi à regarder la version originale. Nous, le lecteur, ne voulait absolument pas, donc on a regardé en version française.
Ah, la double peine.
Bon. Il parle français, Gary Cooper parle français à un moment donné.
Oui, oui, c'est ça.
Donc, tu veux dire que pendant un moment donné, j'aurais eu sa vraie voix? Non, je ne le crois pas.
Il y a un moment, un échange en français.
Oui.
On confirme. Avant l'italien. Ça doit être un peu en Suisse, je crois, ou quelque chose comme ça.
Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on... Luc, tu te sens de dire trois mots sur...
Ça va être vite fait. C'est un scientifique, Gary Cooper, qui qu'on sollicite pour aller dans la en France, en Suisse et en Italie pour récupérer un secret cette combinaison secrète pourrait permettre aux Allemands d'avoir la bombe atomique. Et donc Gary Cooper va partir d'ailleurs, c'est étonnant quoi, il est pas du tout espion, mais il se transforme en espion hop comme un coup de baguette magique. Il est efficace, il connaît toutes les subtilités, on croirait qu'il a lu les romans de John le Carré. Voilà. Oui. Et il va tomber, je vous le donne en mille, amoureux. Voilà. Ce qui donne à une scène finale mélodramatique.
Oui, parce qu'il faut quand même dire que c'est un vieux garçon célibataire. Et d'un seul coup, il tombe amoureux. Il faut dire qu'elle est.
Ça arrive aux vieux garçons célibataires. Hein.
Il faut
dire qu'elle est sacrément belle.
Il faut dire qu'elle est irrésistible. Pour une fois, c'est pas une Française, c'est une Italienne.
Et puis elle n'est pas que belle, elle a du caractère, enfin courageuse, etc. Il y a pas mal de choses. Effectivement, j'ai trouvé ça assez étonnant, la bascule au moment où il d'un seul coup, c'est OSS 117. Non, je plaisante. Mais il y a un autre moment moi qui m'a un peu interpellée, pas que. Sur les par exemple quand on dit qu'ils sont efficaces quand ils vont chercher la Suisse, j'arrive plus à trouver mes mots, non, celle qui s'est évadée, qui a été reprise, comment elle s'appelle, aidez-moi,
Paul Da,
justement, c'est lui, elle, c'est
quand ils vont la chercher.
Ouais, quand ils vont la chercher, bah c'est quand même. D'ailleurs là, on a bien rigolé parce qu'il y avait un décalage entre le texte et puis
le sous-titre
où il y en a un qui disait ah c'était pas facile et l'autre il disait c'est complètement raté parce que quand même elle se fait trucider quoi. Puis en long, là c'était assez grossier quoi. Enfin, je me suis dit mais ils y vont complètement à l'arrache, elle se fait trucider. Bon, il y a des plans, j'ai trouvé ça super beau. J'ai pas arrêté d'osciller en fait en train de plein de sensations différentes où d'un seul coup je dis ah ce plan il est vachement beau, je me faisais prendre dedans. D'autres moments je dis bah c'est un peu grossier, je suis pas dedans. Bon voilà, j'ai fait du ping-pong quoi.
Oui, alors d'un autre côté Luc a bien dit que il devenait quasiment agent secret alors que c'est un amateur, mais il faut savoir qu'en face à côté il est avec des résistants qui par essence sont des amateurs parce que eux ils apprennent leur métier sur le tas, si j'ai envie de dire. Et du coup moi ça m'intéressait, ça, ce truc assez réaliste du le mec va pour sauver une scientifique pour la ramener avec lui aux États-Unis et il échoue parce qu'en fait ce qui se passe dans la réalité de la Seconde Guerre mondiale c'est que 80% des opérations que tu mènes comme ça elles échouent en fait et elles échouent pour des conneries et là c'est vrai, c'est vraiment ça.
Oui, mais d'ailleurs c'est ce qu'elle dit par rapport au chat, c'est toujours dans les détails qui a le problème. Non, c'était le décalage entre son discours à lui et comment ça se passait vraiment en fait, je trouvais. Quand il lui dit à elle, ne vous inquiétez pas, ayez confiance, tout va bien se passer, etc. Puis derrière, en fait, c'est la cata totale, quoi. Mais bon.
Oui, alors, moi, il y a juste une petite aberration, c'est l'arrivée de l'espionne allemande à la fin dans la maison. Quel intérêt elle a de venir se faire trucider dans la maison ?
Mais il fallait la faire revenir parce qu'elle avait un peu disparu des radars. Il fallait la faire.
Oui, mais on l'avait oublié, c'était très bien. là-dessus. Non, et puis alors, ce qui est vraiment très troublant dans ce film, et c'est pour ça que j'avais fait ces deux présentations un peu similaires, c'est vraiment la place de la femme résistante qui, elle. Elle donne de son corps, c'est-à-dire que le gros nazi, elle va le mettre dans son lit parce qu'il faut avoir des secrets, il faut avoir des informations. Elle sait que elle va sacrifier même son corps, alors que les autres résistants, ils sont pas dans ce sacrifice-là, où ils meurent, où ils vivent.
Ils ont peut-être moins d'atouts aussi.
Mais voilà.
Moi, ce qui m'a interpellé, c'est Fritz Lang, que je n'attendais pas sur le terrain d'un engagement aussi profond contre la guerre et contre la bombe atomique.
Oui, enfin, peut-être, oui, ça, mais on est chez un Fritz Lang en dessous, mais tellement en dessous de M le Maudit, de Métropolis.
Ah, mais il ne parle pas de la même chose.
Peu importe, je parle de cinéma. Cinématographiquement, on est sur un film qui, moi, je trouve moins dense que... Enfin, si on me parle de Fritz Lang... Bien sûr que j'ai dans la tête, M. le Maudit, enfin Métropolis.
Métropolis, M. le Maudit, c'est des films ultérieurs à celui-là, sans doute, non?
Ah bah ils sont ils sont bien avant, ils ont été tournés 10 ans avant.
Là on est plus évidemment dans le film de commande et le film de propagande.
Tout à fait.
Et il brasse le thème du projet Manhattan, de la bombe atomique qui fait peur. Et je rejoins Toup sur le discours. Je l'avais oublié, le discours de Cary Grant au début, qui est contre
Cary Cooper.
Qui est contre. Non, c'est Cary Grant.
C'est Gary Cooper.
Gary Cooper.
C'est dans les...
D'accord. Gary Cooper.
Qui est contre.
C'est
pas lui
de Monaco.
qui est contre l'arme atomique et contre ce que peut faire l'homme avec l'allégorie de la pomme.
Et on peut penser que Gary Cooper joue le rôle de Frank Oppenheimer, dans son rôle de scientifique, qu'il est pas loin de Frank Oppenheimer. Mais ça, c'était la minute.
L'instant Jean-Luc. Voilà.
Du docteur Cyclopède. Qui me dit que le temps passe. Alors, on va passer justement à ma chronique lecture. Voilà. Donc, moi, je me suis intéressé à un auteur qui ne manque pas d'air, AIRES. Et c'est Marcus Malt. L'auteur du À jamais marquant Le Garçon fait paraître chez Zulma son nouveau roman. Alors, la question qui se pose est comment écrire un nouveau livre après un ouvrage aussi abouti que Le Garçon? Ne risque-t-on pas la déception? Eh bien, oui et non. Car Marcus Malt est à l'instar de Tom Waits, qu'il a plus que fredonné dans sa dernière lecture musicale.
The piano has been drinking.
C'est ça, the piano has been drinking.
Not me.
Il surprend. Alors oui, la déception est là, et puis elle s'amenuise, pour se réduire à peau de chagrin sur l'une des aires d'autoroute qu'empruntent tour à tour les 10 protagonistes de ce roadbook choral. L'auteur aime les personnages fracassés, et il se complaît ici à nous proposer 10 épaves plus ou moins vieilles qui vont venir se percuter. Le roman se déroule de façon assez mathématique. Une succession de 10 chapitres inaugure la présentation de ces trajectoires qui ne sont absolument pas rectilignes. Puis... chacun des personnages qui a quelque chose de touchant et quelque chose d'énervant. On devine qu'il va y avoir des interactions. Mais c'est déjà l'heure d'un deuxième passage en revue. Et on retrouve un à un ces personnages que, du coup, l'on connaît déjà un peu. Puis vient le final, qu'on s'empressera de ne pas déflorer, évidemment. Alors, bien sûr, Marcus Malt cède à certaines facilités, mais il y a ce fil conducteur et cet intérêt pour l'humain. Mathématiques ou autoroute, il y a de belles airs chez Marcus Malt, comme une mélodie entêtante. Air de Marcus Malt, c'est chez Zulma, et maintenant, le retour de Reniflar & Co, 9e épisode, c'est parti.
Reniflar & Co. Mise en scène de Linda Gonin. Avec les voix de Yann Renaud, Catherine Réveillé, Toups Bébé et Linda Gonin. Voix du générique Elouane.
Nous sommes dans le cabinet d'avocats René. Ah non, nous ne sommes pas dans le cabinet car Maître Reniflar a envoyé son assistant Ravelli dans la rue afin de chercher de nouveaux clients.
Qui veut un avocat? Un avocat? Personne n'a besoin d'un avocat. Un avocat. Vous voulez un avocat?
Ah non, non, non. Hein.
Un avocat peut-être?
Un
bel avocat bien frais. Qui veut un avocat? Madame? Belle avocate, bien
non,
frais.
Non.
C'est la jambe.
Qui veut un avocat? Un avocat? Un avocat, madame? Personne n'a besoin d'un avocat? Vous voulez un avocat, madame? Un avocat tout frais? Oh, ok, je peux demander quand même. Oh. Vous voulez un avocat?
Non, je ne veux pas d'avocat.
Alors, qu'est-ce que vous voulez?
La paix.
Ah, ça, ce n'est pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Un avocat, peut-être? Un bel avocat, bien frais.
Écoutez-moi bien, mon cher ami. Je n'en ai rien à fiche de votre avocat.
Eh, mais moi non plus. Mais je dois lui trouver une cliente.
Mais dites donc là, qu'est-ce que vous essayez de faire, hein? À quoi jouez-vous? Laissez-moi tranquille, hein.
Non, mais...
Fichez le camp ou j'appelle les flics.
Vous voulez porter plainte contre moi? Vous voulez... C'est une bonne avocate pour vous.
Oh, vous... Monsieur l'agent, voulez-vous me débarrasser de cet important?
Oh, vous! Allez, allez! Débarrassez le plancher, vous encombrez la chaussée.
Mais je ne peux pas débarrasser les planchers. Pourquoi on n'a pas payé les loyers?
Écoutez, mon vieux, je sais que vous êtes de bonne composition.
Ah, pas du tout! Qui vous a dit ça?
Vous vous croyez malin?
Non, bah non, elle est malin, c'est mon patron, hein, monsieur Reniflard. Hey, vous voulez une avocate?
Pourquoi aurais-je besoin d'un avocat?
Bah, je ne sais pas. Vous pouvez l'emmener chez vous, les laver, les montrer aux bambini.
Écoutez, mon vieux, à quoi voulez-vous en venir?
Mon patron, monsieur Reniflard, il m'a dit de venir ici pour harponner des clients.
Ce n'est pas en restant ici que vous allez lui trouver les clients à votre avocat.
Mais alors, comment je vais faire?
Circuler, essayer de trouver un accident. C'est comme ça qu'on déniche des clients. Maintenant, disparaissez. Si vous êtes encore ici à mon retour, je vous emmène au poste.
Ok. Eh bien, je vais les provoquer, moi, l'accident. Tiens, voilà. Un carillon, va bien. Tout ça qui passe, c'est le plus dessous.
À suivre.
Quelques brèves. Mercredi 4 mars à la bibliothèque d'Ingrande, Le Fresne-sur-Loire, c'est mercredi polar. On causera des sélections du prix SNCF du polar, mais aussi de polar italien. Demain, c'est un entre les pages bien particulier, puisque enregistré à Saumur, Luc. Est-ce que tu peux nous en causer deux mots?
Eh bien, on s'est rendu samedi après-midi à Saumur et nous avons rencontré à la fois les responsables de la bibliothèque de Saumur, les responsables de la maison d'édition Banquise et Comète, et nous avons interviewé Gino Blandin, un auteur de romans policiers qui a écrit une petite série avec une journaliste qui est tout à fait honorable.
C'est chez Geste Édition, ça?
Geste Édition, tout à fait.
D'accord.
Voilà, donc c'est une super émission.
Ok, c'est une super émission que nous écouterons demain.
À 17h.
À 17h. Enfin, vendredi 6 mars à 18h à Brissac-Quincé, dans le désordre. Je voulais la faire, celle-là tout à l'heure, le Quincé dans le désordre, mais je...
Ah oui, bravo, t'as bossé, hein.
Et au Bigarré, enregistrement spécial de Calibre 58 dans le cadre de Polarisez-vous. La semaine prochaine, place à nos amis imaginaires. Pour l'heure, un peu de douceur et de caresses métalliques. Ils sont déjà dans la place. On
les
accueille. On les applaudit bien fort.
Ouais,
et on les laisse profiter de ces deux heures. Voilà. On vous dit à dans 15 jours. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Radio G 101.5 FM.